Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CFDT. Avant d'évoquer avec vous votre regard sur le déconfinement qui a lieu aujourd'hui, la CGT Infocom a déclenché un tollé ce week-end avec des affiches, s'en prenant à vous avec des représentations d'assez mauvais goût. Votre regard sur la manière dont une cellule de la CGT a utilisé votre image et s'en est prise à vous?
Bah écoutez, je vous dirais pas que c'est agréable, mais c'est scandaleux, ça n'a pas d'intérêt, c'est dégradant, c'est insultant, c'est surtout un relent homophobe. Donc je crois que c'est vraiment pas le moment, c'est jamais le moment, mais c'est vraiment pas le moment de relancer de l'homophobie. J'ai interpellé Philippe Martinez parce qu'on se connaît bien, parce qu'on s'apprécie, et je lui ai demandé que ces affiches soient retirées au moins des réseaux sociaux, ce qui a été le cas. Je condamne ce type de pratique. On peut être en désaccord, on l'est souvent, les uns avec les autres, pas forcément tout le temps avec la CGT d'ailleurs, mais on se respecte, ça me paraît être la base de la démocratie. Donc voilà, c'est pas agréable, mais il y a des choses bien pires. Ce qui est sûr, c'est que il faut pas que ces idiots, parce que c'est vraiment très idiot, puissent recommencer, parce que c'est dégradant.
Bon, la CGT a condamné également ces images, mais au-delà de ça, est-ce que ça témoigne d'un climat extrêmement délétère entre vous et la CGT?
Non, pas du tout. Non, je crois pas. Vous l'avez bien dit, Guillaume, c'est une branche de la CGT connue pour ses outrances. Des fois ces outrances, y compris à l'égard de ses propres camarades de la CGT. Donc il ne faut pas surtout pas en faire un élément d'affrontement stérile et idiot. On n'est pas en accord sur tout, loin s'en faut, avec la CGT, chacun le sait, mais ça se respecte. Vous savez, les désaccords, le droit au désaccord dans cette période, il est extrêmement important, y compris dans le syndicalisme. On n'a pas à être toujours d'accord si on ne l'est pas, on ne va pas se forcer. Mais ça ne témoigne pas d'une radicalité dans les relations entre nous. C'est difficile dans certains endroits, dans d'autres c'est plus aisé, mais je le répète, dans les relations entre les deux responsables de ces organisations, la courtoisie elle est de mise, et le respect aussi. Donc je souhaite que ce soit toujours le cas, par contre qu'on soit capable de dire nos désaccords, mais de le faire correctement, dans un cadre normal, dans une démocratie.
Laurent Berger, vous qui êtes secrétaire général de la CFDT, le monde du travail est-il prêt pour le déconfinement?
Écoutez, c'est difficile de l'anticiper alors qu'on est en plein dedans. Ce qui est sûr, c'est que là où ça s'est préparé, par le dialogue social, parce qu'on a pris le temps de discuter avec les salariés, de discuter avec leurs représentants, de regarder les conditions en termes de protection individuelle, de nouvelle organisation du travail. Il y a des sites, des endroits, des lieux de travail qui sont préparés. Et puis il y en a d'autres où il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des salariés et des agents publics, parce que ça concerne aussi les agents publics, où finalement il y a une forme de plongée dans l'inconnu, parce qu'on n'a pas eu pris le temps, il n'a pas été pris le temps de préparer avec ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les travailleurs, ce déconfinement. Donc c'est très disparate. Et puis, il y a des situations particulières qui sont liées à des endroits particuliers. Je pense notamment à l'Île-de-France avec ses transports, où là, il y a beaucoup d'inquiétudes, et les choses se passent diversement ce matin, a priori. Il y a aussi des situations particulières liées aux enfants qui sont pas scolarisés et dont on sait encore pas vraiment comment les choses vont se traiter lorsque les enfants ne pourront pas reprendre l'école, et ce sera le cas d'une bonne partie d'entre eux au moins dans la semaine à venir, et le fait qu'on nous demande de venir travailler. Donc c'est difficile, mais vous savez, c'est difficile aussi de donner des leçons. Yaka Faucon, c'est très facile dans certaines situations, mais quand la situation qu'on connaît aujourd'hui, elle est totalement inconnue, totalement imprévisible, parce que personne n'y était préparé, faut juste essayer de se dire, à la place où on est, comment on peut agir au mieux. Et les militants de la CFDT, ils essayent de dire, attendez, on regarde les conditions de santé et de sécurité, c'est la priorité, et c'est à partir de là qu'il faut discuter. Et s'il y a dialogue, ça peut passer correctement. S'il n'y a pas de dialogue, oui, la confiance va être a été corné.
Mais précisément, puisqu'il s'agit d'une situation complètement inédite, Laurent Berger, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par précaution, par exemple, repousser la rentrée scolaire des enfants en septembre ?
Oui, cette question se pose sur la rentrée scolaire. On verra, je pense que de toute façon ça va beaucoup s'étaler. Après, il faut entendre l'argument qui était aussi celui du décrochage d'un certain nombre d'enfants, et parce qu'on voit bien que cette période de 8 semaines, 9 semaines que nous avons traversée, elle est finalement un formidable reflet des inégalités qui traversent notre société, et que du coup la question du décrochage scolaire, elle se posait aussi. Mais, et donc sur l'école, oui, il y avait sans doute des choses à faire. Par contre, sur la reprise d'activité, soyons clairs, le virus n'aura pas disparu, d'après ce qu'on nous dit, même si je ne suis pas spécialiste, en septembre. Donc on ne va pas rester confinés jusqu'en septembre, y compris en termes d'activité. Donc il faut trouver les voies et les moyens d'organiser autrement le travail, de faire en sorte que les choses se passent au mieux et qu'on n'ait plus comme seul objectif la rentabilité, d'une certaine manière, la productivité, mais aussi la question de la santé et de la sécurité des salariés qui doit d'abord être la préoccupation. Quand je dis les salariés, je dis de tous ceux qui sont à l'entreprise, parce que ça concerne aussi, dans les toutes petites entreprises, les employeurs, évidemment. C'est compliqué. Moi, je crois que ça ne se décrète pas, vous savez. Bien sûr, il y a une date, et c'est aujourd'hui, le début du déconfinement. Mais ensuite, c'est beaucoup l'intelligence collective des acteurs au plus près de chaque réalité qui va faire. On voit bien dans les commerces alimentaires qu'on continuait de fonctionner. Il y a eu des situations très diverses, selon la responsabilité ou non des employeurs.
Mais précisément,
des endroits où ça s'est bien passé, des endroits où ça ne s'est pas bien passé.
Laurent Berger, il y a une forte inégalité dans le monde du travail. C'est quelque chose d'habituel, mais ces inégalités sociales, elles se sont redoublées d'inégalités sanitaires, elles n'ont cessé durant la pandémie, et on se rend compte aujourd'hui qu'elles sont réelles. Les personnes qui doivent exercer leur travail en étant sur le terrain, certains qui prennent plus de risques que d'autres, bref, quel est le point de vue du secrétaire général de la CFDT sur ces inégalités qui se révèlent de manière criante aujourd'hui ?
Il ne faut pas les nier, c'est mon premier élément. Et nous avons fait une enquête à l'occasion du premier qui montre qu'il y a trois grandes situations finalement. Il y a lorsque vous êtes en présentiel, comme on dit, c'est-à-dire par exemple, il y a 96% des ouvriers qui ont toujours qui travaillent en présentiel. Voilà. C'est 32% des cadres. Ça se nie pas cette réalité. Il y a ceux qui sont en télétravail. Il faut pas. Alors ceux qui sont en présentiel, pardon, c'est ceux qui sont les plus exposés depuis 8 semaines. On le sait, c'est souvent des métiers à forte valeur ajoutée sociale pour le coup, mais très peu reconnus socialement en termes de rémunération, de reconnaissance, etc. Souvent, très majoritairement occupés par des femmes. Et d'ailleurs, ceux-là, faut pas les oublier. Parce que moi, le risque, je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup du déconfinement, c'est logique, mais qu'on oublie les soignants, qu'on oublie les travailleurs de l'alimentaire, de l'agroalimentaire ou de la distribution, du transport, qu'on paye un lourd tribut, parce que cela va pas falloir les oublier. C'est-à-dire que la vie ne recommence pas comme avant. Donc ça, c'est la première situation qu'on a vécue pendant cette période, c'est de ceux qui étaient le plus exposés, avec une demande de notre part de forte reconnaissance. Et il y a ceux qui étaient en télétravail. Vous savez, le télétravail, c'est vrai que ça a permis pour certains de s'apercevoir qu'on pouvait télétravailler certaines tâches. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour nombre de salariés. Pour des questions d'équipement professionnel, mais aussi pour des questions de conciliation avec la vie personnelle. Les enfants étaient à la maison pour la plupart d'entre eux. Il a fallu se réorganiser dans un télétravail un peu précipité. Donc, ça n'a pas été toujours non plus très facile, mais c'est vrai, moins exposé sur la question sanitaire. Puis, il y a tous ceux qui étaient en chômage partiel. Ils sont très nombreux. Plus de 11 millions de personnes. Ceux-là, ils l'ont vécu parfois avec un double sentiment. Un sentiment d'inutilité dans cette période, et on a des témoignages assez importants de salariés qui disent « je me sens inutile et je me sens pas très bien », etc. Et une crainte pour l'avenir de leur emploi pour nombre d'entre eux. Donc vous voyez, ces réalités, pour reprendre votre question, elles existent, elles sont diverses, il faut les prendre en compte. Mais il ne faut pas appuyer dessus. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas appuyer dessus. Entre d'un côté ceux qui seraient favorisés parce qu'ils auraient télétravaillé, ceux qui auraient été couverts parce qu'ils auraient été au chômage partiel, et puis ceux qui auraient été en présentiel. Il faut plutôt aller vers de la reconnaissance de ceux qui, pendant 8 semaines, et je pense particulièrement aux soignants, parce que j'ai un peu de crainte, je vais vous dire, qu'à partir d'aujourd'hui, on les oublie. Je pense notamment aux soignants, mais aussi aux autres, qu'on puisse davantage travailler sur leur reconnaissance. Et puis, il va falloir aussi regarder comment ça se passe pour tous ceux qui télétravaillent aujourd'hui, qui continuent de le faire dans des conditions qui ne sont pas simples.
Qui ne sont pas simples et qui mériteraient un autre cadre, parce que on voit là aussi que le télétravail pose des problèmes singuliers au quotidien qui, parfois, n'ont pas encore été clairement définis, Laurent Berger.
Oui, bien sûr. Comment ça se passe pour la connexion à un réseau Internet, dont on a besoin évidemment la plupart du temps pour télétravailler. Comment ça se passe pour un équipement, pour être assis correctement? Est-ce qu'on a un espace de travail pour le faire? Est-ce que des fois on ne fait pas du flex-office, c'est-à-dire du bureau flexible, ce qu'on condamne dans les entreprises chez soi, parce qu'il faut jongler entre les différents habitants de l'appartement? Est-ce que le lien avec les collègues se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un isolement social? Enfin, toutes ces questions-là sont posées. Donc
vous n'avez pas peur que ça devienne la norme après, maintenant qu'on s'est rendu compte que c'était possible, que ça permet, je ne sais pas, par exemple, d'économiser sur le bureau, puisque on se rend compte dans certaines entreprises que le télétravail finalement fonctionne. Est-ce que un syndicaliste comme vous a peur que le télétravail devienne la norme, ou bien c'est quelque chose que vous envisagez avec une certaine sérénité?
Mais vous savez, le télétravail, c'est à la fois une aspiration. On le voit à travers toutes les enquêtes sur le travail qu'on a opérées. C'était avant cette crise une aspiration d'un certain nombre de salariés, notamment dans les zones très urbanisées où pour se rendre au travail, il faut un certain nombre de temps, là, ça s'est fait de façon précipitée. Donc la crainte, ça serait que ce soit un télétravail généralisé, parce que moi, je crois que le travail, c'est aussi du lien social, et que malgré tout, dans la vie quotidienne, dans sa vie sociale, comme dans sa vie au travail, on a quand même besoin de contact. Vous voyez, ce matin, on serait l'un en face de l'autre, il se serait passé avant et après une discussion, un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, et donc on a besoin de ça au travail. Mais j'avoue que dans certains endroits, on se dise, on pourrait optimiser les coûts. La logique demain, d'un certain nombre de personnes, ça pourrait être d'optimiser le travail plutôt que de le réorganiser, de prendre en compte de nouvelles aspirations. Parce que les enquêtes qui sont faites sur le télétravail montrent bien qu'un certain nombre de salariés souhaitent télétravailler davantage à l'avenir. Pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit cadré. C'est pour ça que nous demandions une négociation avec les organisations patronales et syndicales.
En parlant de réorganisation, il y a une petite musique qui se fait déjà entendre, Laurent Berger. On l'a entendu par exemple à la SNCF, chez Air France, où il est question de suppression de postes parce que ces entreprises disent leur patron respectif vont avoir des difficultés financières et cela ne pourra pas se faire à effectif constant. Vous en pensez quoi?
D'abord, c'est des situations très, très différentes. La SNCF, c'est demain une entreprise qui, en termes de transport de biens ou de marchandises, peut être un acteur essentiel de la transition écologique. Donc vouloir faire moins en termes de transport collectif par le rail, ce serait une profonde bêtise. Je le dis aussi franchement que je pense. Et donc la question, elle sera aussi de l'investissement dans un mode de transport qui a ses vertus pour la transition écologique. Il ne faudra pas oublier cette dimension extrêmement importante pour l'avenir. Pour Air France, il fallait sauver cette entreprise. Ça a été fait en injectant de l'argent public. Il y a des conditions qui sont fixées, notamment en termes de transition écologique. Moi, je vais vous dire, je suis très inquiet. J'étais encore la semaine dernière avec les équipes CFDT d'Air France, très inquiet de l'impact social. Mais au global, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, je suis très inquiet de l'impact en termes d'emploi.
Mais alors, est-ce que ça n'est pas, parce que cette question environnementale qui est cruciale pour Air France, si Air France, par exemple, n'a plus le droit de faire de petites liaisons, je mets ça entre guillemets, de petites liaisons aériennes lorsque le TGV le fait en moins de 2h30, est-ce que ça n'est pas courir le risque, par exemple, de permettre à des concurrents d'Air France de les faire à sa place?
Mais c'est exactement ça, ce que nous avons dit à la direction d'Air France la semaine dernière. C'est-à-dire que si c'est pour qu'il n'y ait pas de régulation du secteur aérien et que ce soit Ryanair ou EasyJet qui fassent les Paris-Lyon ou les Paris-Bordeaux, on n'aura rien gagné sur le plan environnemental, on aura dégradé socialement. Et donc, il faut... vous savez, la construction de ce qui se passera après, c'est à la fois une vision sur la transition écologique, la réduction des inégalités, mais c'est aussi des méthodes, et notamment en termes de régulation. Il va falloir réguler l'activité économique pour permettre qu'on ne soit pas les naïfs qui se fassent avoir dans des règles concurrentielles internationales. Donc le rôle de l'Europe va être déterminant là-dessus.
Mais alors
et évidemment, si c'est pour dégrader les choses socialement, c'est hors de question. Mais vous savez, ce qui va se passer après, ça va demander de chacun d'entre nous qui fasse face à ses propres contradictions. Il y a des aides publiques aux entreprises. Aujourd'hui, ça faisait un moment qu'on disait qu'il faut que les entreprises rendent compte sur les aides publiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces entreprises, évidemment que les salariés ils souhaitent qu'il y ait des aides publiques pour leur entreprise. Sinon, ils savent bien ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, lorsqu'on dit qu'il faut de la conditionnalité, c'est évidemment en termes d'emploi, mais aussi en termes de transition écologique. Mais ça, il va falloir le régler par le dialogue social. C'est-à-dire qu'il est hors de question que ce soit entre Bercy et la direction d'Air France que les choses se passent pour regarder comment les choses vont se dérouler dans cette entreprise dans les mois à venir. Bon, le premier débat, il est effectivement la reprise du trafic aérien, ce qui est loin d'être le cas. Et donc, moi, je vous le dis, il va falloir sortir à la fois du business as usual, on revient comme avant, et on ne fait pas de contrôle et de régulation sur les entreprises, sur un certain nombre d'entreprises. Et de l'autre côté, il va falloir sortir des slogans où il faudrait un slogan du genre « il est interdit de licencier ». Ça sera beaucoup plus complexe que ça. Et pour le gérer, c'est encore une fois dans les entreprises qu'il faut regarder comment les choses peuvent se réguler.
Mais au-delà donc de cette régulation laissée à la libre responsabilité des acteurs, on voit bien que la tentation existe d'utiliser cet épisode-là pour diminuer le nombre de salariés, que cette diminution soit justifiée ou pas. Qui va pouvoir juger du caractère légitime ou justifié de ces licenciements, Laurent Berger ?
Les représentants du personnel. D'abord, moi, j'espère qu'il n'y aura pas de licenciement le moins possible, mais il faut juste... Vous savez, on peut se mettre la tête dans le sable à l'heure qu'il est, et puis de se dire, mais non, finalement, tout ça va se passer correctement. Il y aura des impacts sur un certain nombre d'entreprises. Moi, je suis très inquiet, notamment pour les toutes petites entreprises, parce qu'on parle des grandes, mais je suis très inquiet pour les toutes petites entreprises qui n'avaient déjà pas beaucoup de trésorerie, qui ont parfois du mal à accéder aux aides, et lorsqu'ils le font, ça ne suffit pas. Donc, vous savez, on va sans doute voir ici ou là des entreprises qui ne rouvriront pas vraiment leurs portes, dans des toutes petites entreprises, des PME ou des indépendants. Ça, c'est le premier élément. Il ne faut jamais regarder simplement que les grandes entreprises, même si elles sont extrêmement importantes. Et puis, pour les autres, eh bien, c'est la capacité d'avoir du dialogue social efficace qui permettra de faire face à ce qui, soyons clairs, va nous arriver en termes de vagues, c'est-à-dire une difficulté d'emploi très très forte avec une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. Et ça va être des situations très différentes. Tous les observateurs disent que ça va être des situations très différentes selon les secteurs, selon la taille des entreprises. Et il faudra des réponses coûts humains. Donc il faudra qu'on ait un éventail de propositions, de mesures. C'est pour ça que nous appelons à une mobilisation générale pour l'emploi. C'est une demande de la CFDT. Je trouve qu'on tarde trop, même si évidemment la question est la crise sanitaire aujourd'hui, mais il faut qu'on se prépare en termes à la fois défensifs mais offensifs pour protéger les emplois et en développer. Et ça va se faire au plus près des territoires, des entreprises. Mais il faut que l'État et les acteurs sociaux, syndicaux, patronaux soient en capacité d'offrir un certain nombre de mesures en termes de formation, de poursuite du chômage partiel, de soutien aux jeunes qui vont fortement être impactés, des renforcements des moyens d'accompagnement des personnes qui seront en risque de perdre leur emploi, de soutien à certaines entreprises ou à certaines filières, même s'il faut conditionner ce soutien. Ça, c'est tout l'aspect, l'arsenal défensif. Et il y a beaucoup de choses à inventer. Et puis, un arsenal offensif qui aide l'investissement dans l'avenir. Je prends un exemple. On sait que l'emploi va souffrir dans beaucoup de territoires, malheureusement. Eh bien, si on investissait vraiment dans la rénovation thermique des logements, qui a un levier d'emploi énorme, eh bien, on commencerait à jouer aussi un peu en offensif sur la question de l'emploi. Donc, vous voyez... ça va être très compliqué, mais il va falloir se mobiliser là-dessus.
Mais alors, précisément, la question de l'investissement, les investissements pouvant d'ailleurs signifier les emplois demain ou même dans peu de temps, Laurent Berger, ces investissements, ils vont être freinés de manière quasi mécanique. Là aussi, les déclarations du patron de la SNCF signifient que tout cela va être gelé pendant un moment.
Oui, mais on aurait tort. Enfin, soyons clairs. S'il y a un moment pour investir dans à la fois la société du care, comme on dit, c'est-à-dire du service, de la solidarité, et de l'autre côté, ou en même temps, d'une certaine manière, dans la société de la transition écologique, il faut investir. C'est si la logique à la sortie de cette crise, c'est la logique de on part les coûts, mais on ne pense pas à l'avenir. On va dans le mur, c'est une évidence. Donc l'investissement, il doit se faire d'abord public et privé. Je crois qu'il y a des leviers pour le faire. Il y a des taux bas pour l'instant.
Il y a des taux bas, mais il y a un montant global d'endettement qui aujourd'hui pourrait atteindre des montants rarement atteints. Est-ce que c'est supportable pour l'économie, pour nos enfants, nos petits-enfants, Laurent Berger?
Mais vous savez, c'est cette dette, et c'est le président de la Confédération européenne des syndicats qui vous parle. Évidemment, elle aura un impact sur les finances publiques, mais il y a deux erreurs à faire. C'est d'abord vouloir résorber trop vite la dette, parce que ça ferait courir le risque d'entrer dans une nouvelle décennie de crise, de contraintes, comme on a connu d'austérité. Et ça, on sait bien que, et socialement et économiquement, c'est pas très intelligent. Le deuxième, c'est de considérer que cette dette, elle serait particulière à notre pays. Tous les pays européens, pour rester dans le cadre européen, ont contracté de la dette. Et donc, le remède, il vient d'abord d'une action concertée pour maintenir des taux d'intérêt bas au niveau européen. Et c'est le rôle de la Banque centrale de mutualiser la dette. Et on peut le faire en émettant, par exemple, des titres communs. Et donc, je ne crois pas que la logique de la dette au sens contracté pour le Covid soit la bonne logique. Il y a vraiment une erreur à ne pas faire, c'est de considérer qu'il faudrait sortir très très vite, rembourser très très vite cette dette. Et donc, ce qui doit être notre boussole, c'est pas la dette, même si on doit pas s'en désintéresser, je suis d'accord avec vous, mais c'est la soutenabilité écologique, sociale et démocratique de notre société. Et donc ça passe par traiter cette dette, et en même temps ça passe par une politique d'investissement dans une économie soutenable et une autre redistribution des richesses.
Un dernier mot, un mot de conclusion, Laurent Berger. Il y a une formule qui dit en substance qu'il ne faut jamais se laisser perdre une bonne crise. On a vraiment une bonne crise face à nous. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre à profit dans cette crise, Laurent Berger ?
Il faudrait mettre à profit qu'elle nous a enseigné que pour la première fois depuis très longtemps, sans doute, on a fait primer la vie sur l'économie, sur notre lien social, sur nos propres vies. C'est-à-dire que on a, par nos comportements individuels, essayé d'avoir une logique collective qui était de se préserver humainement les uns les autres. Ça n'a été possible que parce que certains ont été beaucoup plus exposés que d'autres, ceux qui parfois étaient les plus mal considérés dans notre société. Cette crise, si elle doit nous enseigner quelque chose, c'est qu'il nous faut repenser notre modèle de société en ayant trois objectifs en tête. Le premier, c'est la réduction des inégalités, parce que cette crise, elle les a fait exploser à notre vue. Elles étaient déjà là, mais ça a été encore plus dur pour ceux qui étaient le plus fragiles de cette crise. Le deuxième, c'est qu'on a fait le choix, parce qu'il y avait un virus qui tuait des gens rapidement, on a fait le choix de préserver des vies. La destruction environnementale et le défi climatique aujourd'hui, c'est aussi une question de l'humanité. Et donc, il faut s'inscrire délibérément dans cette transition écologique. Et enfin, tout ça ne sera possible que si on revoit nos pratiques démocratiques. Et je crois profondément que, plus que jamais, on n'attend pas de quelques-uns qui nous disent ce qu'il faut faire. Les citoyens, ils attendent d'être écoutés et de pouvoir participer aux choix qui les concernent. Et que ce sera un des enjeux très, très immédiats de la sortie de crise qui va se poser. Et c'est pour ça qu'avec les associations avec lesquelles nous travaillons dans le pacte du pouvoir de vivre, nous, nous sommes très mobilisés pour préparer la suite parce qu'il est hors de question de repartir comme avant.
Merci beaucoup Laurent Berger, vous êtes secrétaire général de la CFDT.